Parole donc à notre camarade Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, je veux commencer par dénoncer les bombardements américains en Syrie, tout comme je veux aussi dénoncer l'attaque au gaz qui a été perpétrée par le régime d'Assad sur les populations syriennes de la région d'Idlib. Dans un cas comme dans l'autre, c'est du terrorisme d'État qui ne vaut pas mieux que le terrorisme de Daesh et qui le nourrit. Le président des États-Unis, Trump, a justifié son action par des considérations humanitaires. Il a osé. Lui qui refuse d'accueillir les réfugiés syriens sur le sol américain. La vérité, c'est que les populations de Syrie sont prises en étau entre les bandes armées qui s'affrontent et les grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et la France qui manœuvrent pour le compte de groupes capitalistes, notamment ceux du pétrole. Certains peuvent penser que c'est loin, mais toute cette barbarie nous concerne parce que les attentats qui ont frappé la France en sont la conséquence et aussi parce que la politique des puissances impérialistes menace à tout moment d'un embrasement généralisé. Alors, il faut affirmer haut et fort aujourd'hui, à bas, toutes les interventions impérialistes. La guerre sociale que mène la classe capitaliste ici contre les travailleurs n'a pas les mêmes effets dévastateurs que ce que l'on peut voir en Syrie, où le quotidien de millions de familles a basculé dans la barbarie en quelques années. Mais c'est une guerre sociale quand même, qui nous fait reculer des décennies en arrière. Les milliards que la minorité capitaliste amasse sont réalisés à coups de licenciements, de suppression d'emplois, de blocage de salaires, d'augmentation du temps de travail et d'aggravation de l'exploitation. Ils sont réalisés à grand renfort de travail intérimaire et de sous-traitance, où les salariés sont plus flexibles et plus mal payés. Ils sont arrachés aux salariés des plus petites entreprises, priés de ne pas compter leurs heures parce que leur patron est étranglé par ce grand capital. Les régions ravagés par le chômage, les centres-villes désertés parce que le petit commerce est moribond, les millions de femmes et d'hommes, de jeunes qui jonglent avec les petits boulots, les retraités dont la pension est inférieure au seuil de pauvreté, voilà le résultat de l'avidité insatiable de la classe capitaliste. On nous dit que la lutte de classe est dépassée, mais elle est vécue tous les jours dans les entreprises. Ce sont les minutes de pause volées, les primes diminuées, les heures de travail non payées, les RTT supprimées, les gestes et les postures répétées qui usent la santé. Et c'est tous les jours pour des millions de salariés dans le privé comme dans le public. Et prenez les négociations salariales qui se déroulent aujourd'hui dans presque tous les grands groupes. Michelin, par exemple, prévoit 14% de plus pour les dividendes, mais pour les salaires, c'est 1 à 3%. Chez Renault, le PDG grassement payé, Carlos Ghosn, a promis aux actionnaires 31% supplémentaires pour les dividendes. Pour les ouvriers, ce sera 0,6% d'augmentation générale. Eh bien, la voilà, la lutte de classe. Parce que je dénonce la grande bourgeoisie et parce que je décris l'opposition entre le monde du travail et la classe capitaliste, on m'accuse d'être schématique, caricaturale, voire violente. Mais c'est la réalité qui l'est. Comment ne pas être révolté par l'étalage des richesses, par ces jets privés, ces palaces, toutes ces extravagances de la grande bourgeoisie, quand il y a des femmes et des hommes qui dorment dans la rue ou qui renoncent à se faire soigner faute d'argent? 21 milliardaires possèdent l'équivalent de ce que détiennent 20 millions de femmes et d'hommes dans ce pays. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, patron de LVMH, a augmenté sa fortune de 8,5 milliards en 2016 pour atteindre 38,5 milliards. Drahi, le mania de la télécommunication, a doublé sa fortune, passant de 5,4 milliards à 12 milliards. La fortune de Beignet, la famille à la tête de Lactalis, est passée de 7 à 10,5 milliards. Et tout ça en pleine période de crise, alors que l'économie est stagnante et que la concurrence fait rage. Comment cela a-t-il été possible? Eh bien, cela n'a été possible que parce que l'exploitation a été renforcée à tous les étages de leur empire. on nous présente toujours ces fortunes comme le fruit du travail mérité de valeureux entrepreneurs. Mais elles se sont construites sur le vol du travail de générations d'exploités et aussi sur la mise en coupe réglée de l'argent public. Car la grande bourgeoisie pille aussi les caisses publiques, aux dépens des hôpitaux, de l'éducation, des transports, et l'État vide volontiers ses poches. C'est de l'argent sonnant et trébuchant, des subventions ou des exonérations, mais ce sont aussi tous les services rendus quand les ministres se transforment, par exemple, en représentants commerciaux pour les Bouygues ou pour les Dassault. Alors oui, cette grande bourgeoisie commande l'État. Elle domine l'économie, elle pèse sur toute la marge de la société et elle nous conduit dans le mur en poussant les classes populaires vers la déchéance matérielle et la société à la déshumanisation. Parce que le chômage et la misère font le lit aussi de la concurrence, de l'individualisme, du rejet, voire de la haine de l'autre. Alors dans cette campagne, eh bien, il faut que nous disions aux travailleurs qui nous entourent: ne vous laissez pas abuser par les pantins qui s'excitent sur la scène politique. Regardez ceux qui tirent les ficelles. Regardez la classe capitaliste qui tient nos vies entre ses mains. C'est une classe parasitaire, anachronique et irresponsable. Et la guerre sociale qu'elle nous mène aujourd'hui se poursuivra demain, après l'élection. Alors, saisissons-nous de ce vote pour dénoncer la dictature de la bourgeoisie, pour mettre en avant nos intérêts de classe et pour affirmer notre conscience d'avoir à nous battre pour les imposer. Beaucoup l'ont fait remarquer. Cette campagne offre un spectacle inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue. Et en plus de ce casting renouvelé, eh bien on a droit à des rebondissements, avec des désistements, des ralliements, des tractations d'appareils, des divisions et des démêlés judiciaires. Pour la première fois, on a en effet droit à un candidat à la présidentielle mis en examen et une autre menacée de l'être sous peu. Cela donne un peu plus de piquant que d'habitude. Et puis là, on les voit tels que nature, avec leur arrogance propre aux privilégiés. On les voit pris au piège de leur propre démagogie sur la justice, la tolérance zéro, et ils sont pris en flagrant délit de mensonge. Eh bien, il faut le garder en tête. Parce que la comédie électorale a repris, et elle suit son cours, comme si de rien n'était. Et regardez comment tous les commentateurs prennent la moindre déclaration de ces gens-là pour argent comptant. Bien sûr, tous ces politiciens savent y faire pour faire oublier leurs incartades et leurs bassesses. À les entendre, on pourrait presque les prendre pour des enfants de cœur. Ils ont tous un petit mot pour les smicards, pour les femmes, pour les retraités, pour les handicapés, les agriculteurs, les commerçants, les jeunes. Ce sont tous de beaux parleurs. Mais au lendemain de l'élection, nous nous retrouverons toujours et encore confrontés au grand patronat. Qui décidera, lui, s'il ferme ou pas telle ou telle usine? Qui décidera de reléguer les femmes dans les boulots les plus précaires et les plus mal payés? Les jeunes continueront d'être baladés de stage en contrat de qualification. Le grand patronat continuera de faire de nous des invalides et des handicapés du fait de cadences et de charges de travail toujours plus lourdes. Et puis notre banquier, bah, il décidera d'accepter ou pas le découvert ou le crédit dont on a pourtant un besoin vital. Et cela, quel que soit le prochain président élu. Tous ces politiciens ne changeront rien de ce qui est fondamental pour nous. Parce qu'ils ne veulent rien changer à l'ordre social et à notre condition d'exploiter. Beaucoup ont gouverné et on les a vus à l'œuvre. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont compris et qu'ils feront différemment. Mais il suffit de les entendre, y compris celle qui n'a pas encore gouverné, Le Pen, pour voir que toute leur politique transpire la servilité vis-à-vis de la bourgeoisie. Je veux prendre un exemple. Ils parlent tous de la nécessité de lutter contre le chômage, de réindustrialiser le pays et d'investir. Mais il y aurait quelque chose de très simple à faire, quelque chose qui ne dépend pas des capitalistes, qui ne dépend que d'eux s'ils sont élus. Ce serait d'utiliser l'argent de l'État pour construire le million de logements qui manquent aujourd'hui. Cela fait des décennies que l'on parle d'urgence en matière de logement. Eh bien, l'État pourrait prendre le problème à bras-le-corps. Il pourrait lui-même embaucher en direct des maçons, des peintres, des électriciens, les ingénieurs, les architectes. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. Et ce n'est même pas l'argent, parce qu'ils ont tous prévu de donner des dizaines de milliards au patronat. La réalité, c'est qu'aucun n'a la volonté de faire cela. Ils veulent tous réserver l'argent public à la bourgeoisie. Alors vous pensez bien qu'ils ne prendront pas une seule mesure contraire à ses intérêts. Une fois au pouvoir, ils la seconderont en menant une politique anti-ouvrière et les quelques mesures de leur programme, un tant soit peu favorables aux classes populaires, termineront, s'ils sont élus, à la poubelle, comme toujours. On nous appelle à voter, mais il s'agit de choisir le président de la République qui servira le grand patronat, qui l'aidera à attaquer nos conditions de travail, nos emplois, nos retraites. Il ne faut pas marcher là-dedans. Quand on est ouvrier, employé, chômeur, voter pour l'un ou l'autre de ses prétendants à l'Élysée, c'est voter contre son camp, c'est se vouer à être trompé et sacrifié. Vous connaissez sûrement l'expression très populaire en mai 68 : la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. Eh bien, c'est une expression qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Je l'ai dit maintes fois, je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni Arlette Laguiller, ni moi-même n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon, parce que nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système capitaliste. Il est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Et la conscience se forge dans le combat politique. Avec Macron, Fillon, Le Pen, Hamon et Mélenchon, on a droit à toute une palette de partis, du plus libéral au plus étatiste, du plus xénophobe au plus tolérant. Mais aucun d'eux ne représente les intérêts des travailleurs et il faut le dire. Pour Fillon, bon, les choses sont assez claires, je crois. Lui-même revendique d'ailleurs être le serviteur dévoué de la bourgeoisie. Et il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. L'arrogance de Fillon, ses leçons de morale du genre « faites ce que je vous dis, pas ce que je fais », c'est exactement le mépris du grand capital pour le monde ouvrier. Fillon s'est lancé dans cette campagne comme l'homme de la probité et de la rectitude, un catholique pratiquant, prêt à faire don de sa personne à la France. Et puis patatras, il a suffi que le canard enchaîné fasse une enquête, qu'il tire sur un fil et toute la pelote est venue, et je pourrais même dire le ballot de laine, parce qu'aujourd'hui, Fillon est poursuivi pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus sociaux, manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique et faux et usage de faux. Et je passe sur les costumes, la montre et les commissions à 50 000 euros. Mais au-delà de toutes ces turpitudes, regardons bien son programme. La fin des 35 heures, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, la retraite à 65 ans, plus d'impôts pour les pauvres, moins pour les riches. Regardons bien ce programme, car c'est exactement le programme que veut le grand patronat. Donc, quel que soit l'élu, il cherchera évidemment à l'imposer. Alors, nous sommes prévenus, le grand patronat va attaquer fort, eh bien, il faut se tenir prêt à nous défendre. Macron, lui, joue la carte de la jeunesse et de la fraîcheur. Mais Macron, c'est l'enfant de Hollande et de Sarkozy, fiancé à Bayrou. Bref, Macron sait comment faire du neuf, mais avec du vieux. Macron, qui a été banquier chez Rothschild, a gagné 3 millions, 1 million par an, pour jouer l'intermédiaire entre des requins de la finance. Et il se dit fier d'avoir, à la différence des autres candidats, une vraie expérience professionnelle, comme si cela lui donnait une idée concrète de la vie de l'écrasante majorité de la population. Macron regarde la société de sa fenêtre de bourgeois. Et que dit-il à la jeunesse ? Créez votre activité, devenez auto-entrepreneur. Résultat, vous livrerez des pizzas, comme les jeunes d'il y a 30 ans, mais au lieu d'être en scooter, vous serez à vélo. Et si vous avez un accident, eh bien vous n'aurez même pas de couverture sociale parce que vous n'êtes pas salarié. Ou au lieu d'être chauffeur de taxi, vous serez chauffeur Uber. Au lieu d'être manutentionnaire chez Carrefour, vous le serez chez Amazon, mais vous alignerez autant d'heures, voire plus, et vous serez aussi mal payé. Et puis Macron, le peu de temps qu'il a été au pouvoir, 2 ans, eh bien, il est parvenu à attacher son nom à 2 lois anti-ouvrières. La loi Macron, qui a étendu le travail du dimanche, et la loi El Khomri, qu'il aurait voulu encore plus dure. Eh bien, 2 ans, ça nous suffit. Le Pen, de son côté, se présente la candidate du peuple. Mais elle appartient au même monde que Fillon ou Macron, celui des riches, qui usent de tous les moyens pour accroître leur fortune. Elle a elle-même transformé son activité politique en petite entreprise familiale prospère. La seule chose qui la distingue, c'est qu'elle a toujours été écartée de la mangeoire gouvernementale. À l'image de ses nouvelles idoles, le milliardaire président Donald Trump et Poutine, le grand chef de l'oligarchie russe, elle veut servir les capitalistes et les banquiers. Et plus elle s'approche du pouvoir, plus elle leur fait des œillades. Elle aussi prévoit des suppressions d'emplois dans la fonction publique. Elle aussi prévoit la baisse de l'impôt sur les sociétés et la baisse des cotisations patronales. Mais en même temps, cette démagogue laisse entendre aux classes populaires qu'elle reviendrait à la retraite à 60 ans et qu'elle versera une prime pour augmenter les plus bas revenus. Dans son programme, cette prime est passée de 200 euros en 2012, c'était 200 euros, à 80 euros aujourd'hui. Mais surtout, elle prévoit de nous la faire payer en taxant les importations et en réduisant ce qu'elle appelle le coût de l'immigration. Nous paierons donc tous, parce qu'avec cette nouvelle taxe aux frontières, tous les prix augmenteront et nous paierons une seconde fois. Parce qu'avec son mot d'ordre de préférence nationale, Le Pen affaiblit le monde ouvrier en le divisant. Comme si le problème venait des étrangers. Mais qui supprime des emplois ? Qui comprime les salaires ? Ce ne sont sûrement pas les immigrés qui travaillent sur les chantiers, sur les chaînes de montage, dans la restauration ou dans le nettoyage. Si Le Pen parvenait au pouvoir, elle mènerait sur le fond la même politique que les autres. En étant encore plus dur avec les étrangers, comme on le voit aujourd'hui avec Trump aux États-Unis, et plus autoritaire avec tout le monde. Alors, aux copains de boulot, aux voisins, à celui qui regarde vers Le Pen, il faut dire « laisse ce vote aux bourgeois du 16e arrondissement qui ne supportent pas la vue d'un centre pour SDF. Laisse ce vote aux nostalgiques de l'Algérie française, à la manif pour tous, aux nazillons mal vieillis. Laisse ce vote aux policiers racistes qui cognent sur ceux qui sont noirs en plus d'être pauvres. Ne vote pas contre les immigrés qui sont nos frères de classe, mais vote pour tes intérêts, vote pour ton camp, vote pour le camp des travailleurs. » À gauche, Hamon a repris la ritournelle de tous les candidats socialistes à la présidentielle. Faire rêver, réenchanter le monde. Mais regardez son histoire de revenu universel. Au départ, ce revenu était présenté sous la forme d'un revenu de 750 euros, versé sans condition à chaque individu dès sa naissance. Ce revenu universel a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, cela a été de l'encre gaspillée, parce que Hamon ne prévoit plus qu'un RSA amélioré. Habituellement, les socialistes renient leurs promesses une fois arrivés au pouvoir. Eh bien là, la promesse n'a même pas tenu le temps de la campagne. Et puis, ce qui est révélateur, c'est que Hamon a reculé parce qu'il ne trouvait pas comment financer son revenu universel. Parce qu'il ne veut rien imposer au grand patronat et il ne veut surtout pas lui demander de payer. Alors oui, Hamon est bien le digne héritier du Parti socialiste. Et s'il arrivait au pouvoir, eh bien, il ferait comme ses ancêtres, Mitterrand, Jospin et Hollande, il trahirait et il démoraliserait ceux qui l'ont élu. En concurrence avec Hamon, pour incarner la vraie gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon. Son langage et ses coups de colère font mouche parmi les déçus du Parti socialiste. Et le fait que le Parti communiste ait fini par le choisir lui donne une base militante dans les classes populaires. Mélenchon promet de revenir à la retraite à 60 ans, de réduire le chômage, de porter le SMIC à 1 300 € et d'augmenter les petites retraites. Mais attention, il se veut responsable et il assure que ces mesures ne coûteront rien au patronat. Pour compenser, Mélenchon a d'ailleurs prévu la baisse de l'impôt sur les bénéfices qui passerait de 33% à 25%. Et surtout, il promet au patronat de relancer l'économie. Pour Mélenchon, s'il y a 6 millions de chômeurs, si le niveau de vie des classes populaires s'effondre, c'est parce que depuis 15 ans, il n'y a que des mauvais pilotes au sommet de l'État. Mais avec lui, tout va changer. Grâce à sa politique, le capitalisme sortira de la crise dans laquelle il s'enfonce et les capitalistes cesseront d'orienter tous leurs capitaux vers la finance et ils se mettront à réinvestir. Eh bien, c'est semé de graves illusions sur ce qu'est le capitalisme. Quelles que soient les mesures, les politiques publiques, que l'on sorte ou pas de l'Union européenne, comme l'envisage Mélenchon, l'avidité et la dictature de la grande bourgeoisie sur les travailleurs et sur l'économie ne disparaîtront pas d'un coup de baguette magique. Mélenchon se pose en anti-système parce qu'il parle de la 6e République. Mais prétendre redonner le pouvoir au peuple sans l'enlever des mains des vrais maîtres de la société que sont les capitalistes, cela relève d'un tour de passe-passe. Les régimes se sont succédés, mais l'appareil d'État, lui, s'est maintenu, avec souvent les mêmes hommes aux postes clés, intimement liés aux plus riches. Et les grandes familles bourgeoises ont traversé tous les régimes, toutes les républiques, en s'adaptant et en ne cessant jamais de s'enrichir. Prenez le groupe Lafarge. Il a fait des affaires sous tous les régimes depuis plus d'un siècle. Il a prospéré sous la 3e République, la 4e, la 5e. Il a participé à la construction du mur de l'Atlantique sous Pétain et Hitler. On a appris récemment qu'il a poursuivi ses affaires en Syrie, sous Daesh. Et hier encore, il était candidat pour construire le mur de Trump entre les États-Unis et le Mexique. Autant dire que ce n'est pas une 6e de la République qu'il arrêtera. Parce qu'il ne veut pas être accusé de laxisme. Jean-Luc Mélenchon tient sur l'immigration des propos plus qu'ambigus. D'un côté, pour ne pas heurter une partie de ses électeurs, il promet de, je le cite, « donner des papiers à ceux qui ont un contrat de travail ». Mais juste après, il n'hésite pas à affirmer qu'il n'y a pas moyen d'occuper tout le monde. Et il justifie donc l'expulsion de, je le cite, « ceux qui n'ont ni papiers ni contrat de travail, car, dit-il, c'est la loi et je ne sais pas quoi en faire. » Eh bien, l'emballage se veut peut-être plus présentable, mais c'est ce que l'on entend aussi du côté de Le Pen. Et ce n'est pas ainsi que l'on pourra contrer son influence dans les classes populaires. Il faut le dire clairement, non, il n'y a pas de problème d'immigration. Il y a le problème d'une minorité qui accapare les fruits des richesses que nous produisons tous collectivement. Alors, restons fidèles aux mots d'ordre qui ont fait l'honneur du mouvement ouvrier. Liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de la terre et émancipation des travailleurs à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Dans le cadre de cette compétition électorale, les principaux candidats s'opposent, ils rivalisent, mais ils partagent le même parti pris fondamental. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, Pas de prospérité, pas d'emploi, pas de vie économique. Leur politique consiste à faire la politique qui leur convient parce qu'ils considèrent qu'on est tous dépendants de cette classe capitaliste. Eh bien, j'appelle les travailleurs à affirmer l'inverse. La bourgeoisie n'est rien sans nous, les travailleurs. Les Arnaud, les Drahi, les Bettencourt ne seraient rien sans les centaines de milliers de salariés qui travaillent dans leurs usines et dans leurs bureaux. Ils ne seraient rien sans leurs comptables, leurs chauffeurs, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Même pour se faire à manger, ils ont besoin de nous. Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super-profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Alors oui, nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions et que cela soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste, minoritaire et parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui veulent voter pour le Front National, il faut qu'ils se manifestent dans cette élection. Il faut que les travailleurs mettent en avant leurs intérêts, leur politique, leur programme. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas garantir les emplois, qu'il leur faut de la flexibilité. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors oui, il faut que tout le monde ait un emploi et un salaire. La première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer bien sûr par les entreprises qui font des bénéfices. On me répond souvent que c'est une contrainte intenable. Rendez-vous compte de la contrainte. La BNP Paribas a réalisé 7,7 milliards de bénéfices en 2016 et elle procède actuellement à 675 suppressions d'emplois et elle a annoncé vouloir fermer encore des agences. Maintenir ses emplois, répartir le travail, lui coûterait 0,3% de ses profits annuels. Et on peut faire le calcul pour Orange, pour SFR, pour Peugeot Citroën, pour les multinationales de la pharmacie ou des assurances, c'est la même chose. Ils sont tout à la fois les groupes les plus prospères et de grands fabricants de chômeurs. Et puis on m'oppose en permanence les PME. Mais il ne faut pas être dupe. La grande majorité sont des extensions des grands groupes créés artificiellement par le biais de l'externalisation et de la sous-traitance pour diviser les travailleurs et pour que les grands groupes se déchargent de leurs responsabilités sur des patrons plus petits. Eh bien, il n'y a aucune raison d'accepter d'être licencié parce qu'on travaille dans une petite entreprise de nettoyage, de maintenance ou d'ingénierie. Quant aux petites entreprises et aux artisans, ce qui les étrange, ce ne sont pas les salaires qu'elles versent, ce sont les banques et les donneurs d'ordre. Alors oui, interdiction des licenciements et que les groupes capitalistes payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois. Pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, Dans le privé et dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet. Et puis regardez les services publics. Prenez les hôpitaux. Est-ce qu'il y a trop de personnel ? Est-ce qu'il y a trop d'enseignants dans les écoles ? Trop de bras dans les maisons de retraite ? Est-ce qu'il ne manque pas des milliers de crèches ? Des milliers de crèches, oui, voilà. Des emplois dans les transports publics, alors que l'on ne nous fasse pas croire qu'il n'y a plus de travail dans cette société. Oui, il faut créer des emplois et il faut répartir le travail entre tous. Cela nécessite d'imposer nos intérêts contre ceux du grand patronat et de l'État, et nous ne pourrons le faire qu'au travers d'une mobilisation déterminée et en étant prêts à mener le combat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'expropriation et jusqu'à la réquisition de tous ces grands groupes qui dominent aujourd'hui l'économie. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC parce que cela leur poserait beaucoup de difficultés. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat. Pas un ne se demande comment on arrive à boucler les fins de mois quand on gagne 1150 euros net par mois et moins quand on est à temps partiel ou au RSA. Pour ces gens-là, la priorité, ce sont les affaires et la prospérité du grand patronat, le CAC 40. Il faut d'abord que cela aille bien de ce côté-là, que ce grand patronat soit comblé, et ensuite, peut-être qu'un jour, ces messieurs-dames se pencheront sur le sort des travailleurs. Eh bien, on peut toujours attendre. Dans cette élection, j'appelle les travailleurs à reprendre la revendication de 1800 euros par mois, mise en avant par certaines fédérations de la CGT. Mais nous parlons de 1800 euros net par mois, parce que ce qui compte, c'est l'argent qui nous rentre dans les poches. Cette mesure choque nombre de journalistes. À l'un d'eux, qui était horrifié par cette idée, j'ai demandé combien il lui fallait à lui pour vivre. Il l'a mal pris et il ne m'a pas répondu. Ce n'était pourtant pas méchant. Je voulais juste l'inviter à faire ses comptes. Parce que nous, nos comptes, nous les faisons tous les jours et nous mesurons exactement ce qui nous manque pour vivre sans l'angoisse du lendemain. Pour ceux qui galèrent avec 900 euros ou avec 1000 euros par mois, je sais que 1800 euros net peut apparaître comme le bout du monde. Mais c'est bien parce qu'il nous force à vivre avec tout juste le nécessaire et parce qu'il nous habitue à cela. Parce que 1800 euros net par mois, c'est ce qu'il faut pour pouvoir se chauffer correctement, pour se payer une bonne mutuelle, pour pouvoir réparer la voiture quand elle tombe en panne ou pour payer des études à ses enfants. Et 1800 euros net par mois, c'est le minimum nécessaire pour tous, pour les salariés comme pour ceux qui aujourd'hui vivent d'une pension de retraite. Et puis, dans une société normalement constituée, je l'ai dit, tout le monde devrait avoir le droit d'être intégré à une activité utile, y compris ceux qui souffrent d'un handicap ou d'une invalidité. Alors oui, le minimum est de revendiquer que tous les minima sociaux tels que le RSA ou l'allocation adulte handicapé soient alignés sur ces 1800 euros net par mois. Et bien sûr, il faut que ces augmentations suivent le coût de la vie. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation avec celle de l'année précédente, sa facture d'électricité ou son assurance pour voir que les prix augmentent. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions soient indexés sur le coût de la vie, sur le coût de la vraie vie et pas sur les indices officiels qui sont manipulés par le gouvernement. On me dit que c'est de l'utopie. Mais dans notre société, toucher 45 000 euros par jour, comme Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, ce n'est pas l'utopie. Ça, c'est normal. Toucher plus d'un million d'euros par semaine, quand on s'appelle Bettencourt, c'est aussi normal. Alors, quand tous ces gens-là nous parlent d'utopie, c'est qu'ils défendent leurs privilèges et leur parasitisme. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est de croire que ces augmentations de salaire seront données par un président de la République. La réalité, c'est qu'il faudra les arracher par nos luttes et que cela dépendra de notre détermination. Alors oui, affirmons qu'il nous faut des augmentations de salaire et que 1 800 euros par mois, c'est le minimum. Aujourd'hui, la bourgeoisie nous dit qu'elle n'a plus d'argent, qu'augmenter les salaires, ce n'est pas possible, que le pays a un problème de compétitivité. Et évidemment, la compétitivité doit toujours se faire sur le dos des travailleurs. Mais comment ces profits fantastiques sont-ils réalisés si la concurrence est aussi rude et les contraintes aussi grandes? Quelle est la marge bénéficiaire? Pourquoi ne pas baisser les prix en prenant sur les bénéfices et surtout sur la part empochée par les actionnaires, du moins les plus gros? Voilà ce que l'on est en droit de savoir. La bourgeoisie a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner, et elle en fait une arme pour imposer sa politique. Eh bien, nous devons revendiquer la levée du secret des affaires. On verrait alors ce que l'entreprise verse réellement en salaire, ce qu'elle économise du fait de multiples exonérations de cotisations sociales, des niches fiscales. On verrait ce qu'elle verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision. Il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris les dessous de table. Et puis, on nous explique que la raison d'être de cette classe capitaliste est d'investir. Eh bien, que l'on regarde aussi combien va à la recherche, à la formation, à l'investissement. Parce que la réalité, c'est que même cette fonction d'investir, la bourgeoisie ne la remplit plus parce qu'elle a trouvé plus profitable pour s'enrichir, la spéculation. Et plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique, car c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Du scandale de l'amiante au Dieselgate, en passant par le Mediator des laboratoires Servier, de la Dépakine de Sanofi, on a la preuve que le grand patronat n'a aucun scrupule à nous empoisonner. Alors il faut savoir ce qui se passe dans les entreprises. Et les salariés sont aux premières loges pour cela. Pas un courrier n'échappe à l'assistante du PDG. Même les courriers secrets, parce qu'elle les tape, parce qu'elle les prépare, parce qu'elle les envoie collectivement. En rassemblant toutes les informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils ont imposé le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut donner la possibilité à tous les salariés de se transformer en lanceurs d'alerte sans craindre d'être placardisés ou licenciés. Oui, il faudrait supprimer le secret des affaires. Et cette mesure est très importante parce que c'est cette mesure qui modifierait radicalement le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Nous saurions exactement à quoi nous en tenir et nous pourrions anticiper, nous organiser face aux attaques patronales et nous pourrions même prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées de 1 à 40 ou 100 qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins et ce sont des objectifs qui n'ont rien à voir avec des promesses électorales. Ce sont des objectifs de lutte qui ne pourront être imposés qu'au travers d'une levée en masse du monde ouvrier, qu'au travers d'un bras de fer qui amènera forcément les travailleurs à contester la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Nos adversaires ne s'y trompent pas et ils hurlent aux mots d'ordre, aux mots d'expropriation et de réquisition. Eh bien, oui, Il faut remettre en cause la propriété privée de la grande bourgeoisie sur les moyens de production. Il faut contester cette propriété qui s'est édifiée sur la sueur de générations de travailleurs et qui continue de s'accroître au travers de notre exploitation. Oui, je suis communiste et je suis candidate aussi pour dire qu'il faut retirer à cette infime minorité immensément riche le pouvoir de maintenir dans l'esclavage salarial l'écrasante majorité de la population. Je sais que certains dans le monde du travail ne se sentent pas exploités, parce qu'ils font un travail intéressant dans lequel ils s'épanouissent ou parce qu'ils sont bien payés et qu'ils pensent avoir tiré leur épingle du jeu. Mais s'ils échappent à l'exploitation la plus brutale, ils n'échappent pas au pourrissement de la société. Ils n'échappent pas à la montée des idées réactionnaires, au racisme, à la xénophobie, à la montée du nationalisme. Ils n'échappent pas à la barbarie de la société. Même celui qui sort de son logement confortable et qui se retrouve dans la rue, eh bien, il doit enjamber le SDF qui dort entre deux portes. Il se retrouve dans le métro, serré comme une sardine, quand il n'est pas pris de panique à une alerte à la bombe. Et comment peut-il envisager paisiblement l'avenir quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient ? Les voyageurs du Titanic, ceux qui voyageaient en première classe, pouvaient peut-être se croire privilégiés, comparés à ceux de troisième classe, mais ils ont sombré, comme tous les autres. La question qui se pose n'est pas une question individuelle. La question, c'est de savoir où va notre société. Et le capitalisme, oui, c'est une menace pour l'humanité tout entière. Quand je me suis engagée, à 18 ans, je ne supportais pas de voir l'Afrique ravagée par la famine dans une société d'abondance. Aujourd'hui, plus d'un quart de siècle plus tard, dans l'Est de l'Afrique, il y a 20 millions de femmes, d'hommes, d'enfants qui sont entre la vie et la mort, faute d'eau potable, faute de nourriture. Et à côté de cela, le secteur du luxe, les ventes d'armes prospèrent. Cette société est aveugle parce qu'elle est dominée par de grands groupes capitalistes qui ravagent la planète autant par leur rapacité que par leur rivalité. Leurs guerres économiques et leurs guerres tout court dévastent des régions entières. Le malheur des peuples du Proche-Orient, c'est de vivre dans une région riche en pétrole, convoitée par les grands groupes capitalistes depuis au moins 100 ans. Et regardez ces régions d'Afrique, transformées en champs de bataille perpétuels parce que leur sous-sol contient des richesses minières exceptionnelles. Et tous dépendent, comme nous ici, du grand casino, de la bourse et de la spéculation. La force sociale capable de combattre la classe capitaliste et cet ordre social est là. Ce sont les exploités du monde entier. Ils n'ont jamais été aussi nombreux parce que la classe ouvrière internationale n'a jamais été aussi présente partout sur la planète. Aujourd'hui, il lui manque l'ambition consciente d'avoir à transformer la société en expropriant la bourgeoisie. Et il lui manque aussi la conscience d'appartenir à une seule et même classe internationale. Parce que le capitalisme ne pousse pas, pousse à la concurrence et cherche à dresser les travailleurs les uns contre les autres. Et quand aucune frontière nationale ne nous sépare, eh bien, il utilise les différences de sexe, d'origine, de couleur de peau pour implanter des frontières dans nos têtes et pour exacerber le racisme, la xénophobie et le communautarisme. Alors il faut des jeunes, il faut des femmes et des hommes qui aient la volonté d'abattre toutes ces frontières et qui soient fiers d'affirmer « ma patrie, c'est l'humanité ». Et c'est un fait. L'humanité n'a jamais été autant mélangée et proche. Parce qu'en même temps qu'il nous oppose, le capitalisme nous relie comme jamais. Aujourd'hui, les crises économiques du capitalisme se répandent à la vitesse de la lumière, au sens propre du terme. Un nouvel effondrement boursier à Wall Street, et c'est l'humanité entière qui plongera dans le marasme économique. Ce destin commun à tous les exploités est un fait irréversible. Et comme les révolutions naissent des crises, eh bien les prochains ébranlements révolutionnaires auront inévitablement une dimension planétaire. Le capitalisme est au bout du rouleau, mais il ne quittera pas la scène de lui-même et on ne peut pas attendre les bras croisés qu'une nouvelle société émerge. Le remplacement du capitalisme par une économie rationnelle, collective et démocratiquement planifiée ne pourra être qu'un acte conscient et délibéré de centaines de millions d'opprimés, et il dépend de nous, et en particulier des plus jeunes, d'en maintenir la perspective vivante. Pour changer la société, la classe ouvrière aura bien des combats à mener, des petits et des grands combats. Et c'est dans le combat pour ses intérêts vitaux qu'elle se forgera la conscience de son rôle historique. Et pour cela, les luttes sociales, les grèves, les mouvements sociaux sont les combats qui comptent le plus. Mais le moindre débrayage, la moindre grève se prépare d'abord dans les têtes. La moindre lutte se prépare bien avant dans les esprits. On pèse le pour et le contre, on réunit son courage. Mais on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout ça se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Il faut s'adresser à tous ceux qui regrettent le recul de la conscience ouvrière. Et il faut les convaincre d'affirmer leur propre conscience de classe dans cette élection. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais quand on a cette révolte, quand on a cette conscience, eh bien, il faut commencer par l'exprimer, de façon à ce qu'elle devienne une expression collective, de façon à ce qu'elle permette de construire une force politique. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec tous les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force, comme un camp politique. Il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, et cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Et je le redis, voter, ce n'est pas encore construire un parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien tout cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Oui, nous sommes à contre-courant. Non seulement parce que la crise pousse dans un sens toujours plus réactionnaire et barbare, mais aussi pour une raison plus profonde, liée à notre condition d'exploiter. Les travailleurs n'ont pas confiance dans leur force collective. Et plus fondamentalement, ils n'imaginent pas s'ériger en classe dirigeante. L'idée que les travailleurs peuvent peser par en bas, en s'organisant et en prenant eux-mêmes des décisions, est une idée bien en avance sur la conscience de la majorité des travailleurs. S'ils savent bien que le véritable pouvoir n'est pas à l'Élysée, mais dans les conseils d'administration des grandes sociétés, toute la hiérarchie sociale cherche à les convaincre que cet ordre est immuable et inchangeable. Alors oui, aujourd'hui, La majorité des travailleurs ne voit pas d'autre façon de diriger le pays que de s'en remettre à une classe politicienne dont on voit pourtant tous les jours qu'elle est pourrie. Ils sont piégés par ce jeu électoraliste. Et c'est aussi de cela que profite Le Pen. On les a tous essayés sauf elle, entend-on. Eh bien, c'est l'expression de la désorientation et plus fondamentalement, c'est l'expression de la résignation et de la passivité politique. Alors, le sens de notre combat, c'est de conforter la conscience de classe, c'est de dire aux travailleurs qu'ils doivent avoir confiance dans leur force collective, qu'ils doivent avoir confiance dans leur capacité. C'est dans le feu de l'action, dans l'expérience de leur force, qu'ils redécouvriront à nouveau toute leur potentialité. Aujourd'hui, en Guyane, comme en Guadeloupe en 2009, des milliers de femmes et d'hommes ont décidé de dire que ça suffit, le chômage et la vie chère. Ils redécouvrent leur force collective en agissant ensemble, de façon organisée. Ils redécouvrent qu'ils peuvent faire pression sur les autorités de Paris par en bas. Et cela leur ouvre bien d'autres perspectives que leur bulletin de vote. C'est dans ces situations-là, dans ces situations d'explosion sociale, que la présence de femmes et d'hommes qui ont pris conscience de leurs intérêts dans les combats électoraux, que leur présence donc est déterminante. En 2012, j'ai réalisé 0,56% des voix. Il faut bien sûr essayer d'en gagner de nouvelles. Mais il faut avoir à l'esprit que si dans les urnes, 200 ou 300 000 voix pèsent peu face aux millions d'électeurs, dans les mouvements sociaux, il en est tout autre. 200 ou 300 000 femmes et hommes conscients de leurs intérêts et agissant quand la combativité des travailleurs se réveille, eh bien oui, cela peut changer bien des choses. Alors, une par une, gagnons de nouvelles voix pour renforcer notre camp. Et je le redis, croire qu'il faut voter utile, voter pour le moins pire, de façon à se protéger est un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne renoue pas avec la tradition du mouvement ouvrier et avec ce qui lui a toujours permis d'avancer, c'est-à-dire les luttes collectives puissantes. Et je le redis aussi à ceux qui sont écœurés par le spectacle politicien et qui envisagent de s'abstenir. Certes, voter ne changera pas votre sort. Mais quand on a la possibilité de protester, de dire ce que l'on pense, il faut le faire. Et on le fait d'ailleurs dans la vie de tous les jours. On le fait au travail. On le fait quand une injustice se déroule sous nos yeux, même si l'on n'est pas en mesure de l'empêcher. Parce que c'est tout simplement une question de dignité. S'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. C'est se soumettre et puis c'est déserter. Car si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas les moyens de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous et il n'y a pas de petits combats, pas de petits gestes. Au contraire même, quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors oui, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. C'est un vote de conscience, de fierté et de combativité ouvrière.